Bonjour à toutes et à tous, et c'est Watchful, et on vous souhaite la bienvenue pour la rentrée des DC Podcasters dans un nouveau format mensuel qui va combiner news et review, séparés par une partie édito. L'équipe est composée aujourd'hui de Harley.
Bonsoir.
De Zeppeli.
Salut.
Et notre nouveau rédacteur déjà remarqué pour son Sandman Theater et sa collaboration au dossier jeux vidéo, Clegane.
Bonsoir.
On va essayer de relativiser ça avec les news VF. Enfin, la news VF. Urban avait annoncé ses albums de fin d'année, mais c'est avec les albums du début 2019 dont Harley veut nous parler, avec Mr. Miracle, qui sortira au printemps.
On a eu l'annonce sur Mr. Miracle, mais aussi Omega Man. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est Mr. Miracle. Et Urban Comics, qui mise en ce moment à fond sur Tom King, je les remercie, parce que c'est vraiment une mini-série, enfin une maxi-série, il y a 12 numéros. Qui est très très belle, qui est puissante, qui est réaliste. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et vu que c'est un personnage qui n'est pas vraiment connu des lecteurs VF, j'avais peur qu'il ne le fasse pas. Mais non, c'est cool. Franchement, c'est très très cool.
Ouais, la réactivité d'Urban fait vraiment plaisir là pour le coup. Donc,
oui,
il me semble que la VO le sort en février. Donc, il ne devrait pas attendre trop de temps entre la VO et la VF, donc c'est bien.
Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que en général, ils sortent des belles sorties en début d'année. Je sais plus exactement pour quand c'est prévu, mais en début d'année, vu qu'il y a aussi certains festivals de BD, ils misent bien sur la com et sur leurs sorties en début d'année. Donc,
la politique d'auteur, Zep.
Bah oui, c'est le nouveau poulain. Ils ont fait ça avec Scott Snyder, ils ont fait ça avec Sean Murphy. Et là, ils font ça avec Tom King, avec Batman, avec Sheriff of Babylon qui sort, avec Mr. Miracle. C'est sûr que, ouais, il a le vent en poupe chez Urban, quoi.
Mais mine de rien, la sortie d'Omega Man, c'est assez osé. Enfin, plus tellement maintenant en VF. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un échec commercial, Omega Man. Et que justement, ça a été tellement une grosse réussite critique sur le coup que DC voulait arrêter la série, et c'est la communauté de lecteurs qui avait réussi à terminer la publication de la série, justement, qui avait réussi à permettre un gain de popularité pour Tom King. Et Zeppeli confirmera, parce que je vais te souvenir que tu avais vraiment adoré Omega Man.
Ouais, je l'avais adoré, ouais. Franchement, j'étais un peu déçu que ça s'arrête si tôt, en fait, mais c'est cool qu'on ait droit à une édition VF, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, du coup, moi, j'imagine, parce que c'est une série un peu mineure. Mais ça vaut vraiment le coup, c'était de la bonne SF et voilà, ça vaut.
Et surtout, ça traite de sujets vraiment communs. Enfin, il y a la dépression, il y a la vie de famille, la vie de couple, les problèmes du quotidien. Dans la deuxième partie, on va pas spoiler puisque là, ce sera le premier tome. Mais c'est hyper criant de réalisme et ils s'inspirent tous les deux de leur vie réelle. Et ça se ressent, c'est ça qui est vraiment bien. C'est pas juste deux héros qu'on suit dans leur vie. Que personne ne peut mener, quoi. C'est vraiment des sujets que tout le monde peut rencontrer, sauf les excursions sur Apocalypse, mais c'est ça qui est très intéressant. Ouais, enfin, moi, j'y vais tous les soirs, tu vois, je vais voir Granny Goodness. Ah ben, on l'a bien vu, de toute façon, hein, dans mon titre Harley Quinn, je suis partie là-bas, hein, avec mon super marteau, voilà.
Ah oui, c'est vrai.
On le sait maintenant.
On a pu nous l'épargner, franchement, c'était pas la peine.
On passe tout de suite à la VO, bah justement avec toi Clegane, tu souhaites revenir sur l'annonce d'une maxi-série en 12 numéros Martian Manhunter, scénarisée par Steve Orlando et dessinée par Riley Rossmo.
Parce que bah, l'annonce fait quand même assez plaisir, déjà parce que ça fait, j'ai plus le chiffre, mais il me semble que ça fait genre 5-6 ans qu'on n'a pas eu de série sur Martian Manhunter. Ouais, donc voilà une belle époque. Et ça a l'air assez prometteur quand même. Steve Orlando, j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal de monde qui n'était pas si fan que ça du gars. Moi, je dois dire que je n'ai rien contre lui. Mais surtout, d'après ce qu'on a pu déjà voir, ça a l'air vraiment de sortir du commun avec son dessinateur dont j'ai oublié
Riley Rossmo. On l'a vu sur okay. Batman and the Monster Man, l'événement qui a dans les titres Batman au début de Rebirth.
Et sur le Batman Who Loves avec Scott Snyder aussi, si je me souviens bien.
Oui, c'est vrai.
Que c'était lui.
Donc moi j'ai un peu oublié Monster Man, je dois l'avouer, ça m'a pas marqué. Mais ouais, donc déjà les dessins qu'on a pu voir, c'est vraiment ça sort du commun et ça m'intéresse. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qui soient pas hyper attirés par le style.
Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup vu chez Image, donc c'est un truc, c'est un dessin qui fait un peu plus comics, un peu indé.
Mais en plus, d'après ce que Steve Orlando dit, ça a l'air assez intéressant. Il veut se concentrer sur la carrière de flic de Martian Manhunter et sur son passé sur Mars. Et en plus, je l'ai vu une. C'est l'éditeur Kevin Conroy, je crois, du titre, qui a décrit ça comme un mélange entre Twin Peaks et Dune de David Lynch.
Kevin Conroy, c'est le doubleur de Batman dans le dessin animé. C'est un peu bizarre.
Alors, soit il a le même nom, soit je me trompe. Mais bref, il y a l'éditeur ouais, qui a dit ça. Donc déjà, ça, moi, ça me fait quand même plaisir. Et donc, ouais, ça a l'air d'être assez prometteur.
En fait, est-ce que tu as déjà lu du Steve Orlando
Bah, Monster Man. Après, je ne suis pas encore vraiment mis, c'est à GLA. Et donc, à part, il y a autre chose que, dont je me souviens. Si, le Batman Wolof, ça aussi. Je l'ai lu.
Mais c'est pas lui qui l'avait scénarisé, le Batman Wolof, si je me souviens bien.
Ah, mais oui.
Mais Steve Orlando, en gros, il a moyenne réputation à cause du titre Supergirl qui avait pour ligne éditoriale de suivre plus ou moins la série, en fait, de s'y rapporter sans faire du copier-coller. Il s'était plutôt bien démerdé, même si c'était vraiment pas terrible, en fait, pour un comics.
C'était nul.
Ouais, j'osais pas le dire, mais surtout comparé à la Supergirl de maintenant, c'était plutôt nul. Pour son événement Batman, c'était clairement pas terrible. Par contre, sur GLA, il reste sur quelque chose de mainstream. Il s'en mêle un peu les pinceaux de temps en temps, mais t'as quelque chose d'assez intimiste de vouloir rapprocher, justement, une équipe de la GLA à quelque chose d'humain. Et le rapport à l'humain, Steve Orlando, je suis persuadé qu'il pourrait réussir à mener quelque chose de très très bien avec un titre comme Martian Manhunter, d'autant plus qu'il dit que c'est son personnage préféré et que ça fait un moment qu'il en parle plus ou moins.
C'est moins casse-gueule que de filer à un auteur comme ça l'écriture d'un titre Batman avec quasiment toute la Bat Family dedans alors que t'es pas prêt. Et c'est aussi moins casse-gueule que de te coller, je sais pas, une série sur Supergirl en disant tu fais un petit peu comme dans la série, mais pas trop. Tu vois.
Donc c'est pour ça qu'il a pas une très très bonne réputation, mais à un moment c'était un peu l'étoile montante chez DC et il s'est fait complètement doubler par Tom King. Et là il reste un petit peu dans l'ombre, mais je suis persuadé qu'il pourrait réussir quelque chose. Tu voulais nous parler d'autre chose, du départ de Ben Percy qui va quitter le titre Nightwing au numéro 50, après le numéro 50, pour se consacrer à ses romans de science-fiction. Est-ce que je parle de la suite tout de suite ou est-ce que je te laisse d'abord parler du départ?
Je pense qu'on peut parler des deux parce que. Ah non, on va parler du départ de Ben Percy déjà. Alors je sais pas, est-ce que vous avez lu, vous, Nightwing, ce qu'il a écrit?
Alors personnellement, j'avais commencé mais j'avais pas trop accroché. Je peux pas dire que c'était mauvais.
Pareil,
mais
j'ai commencé, mais ça m'a. J'ai arrêté.
Bah, c'est un peu ce qu'était l'opinion de pas mal de monde. Et je dois avouer que bah, j'étais un peu partagé dessus aussi. Parce que je trouvais qu'il y avait des idées sympas, tout ce qu'il y avait autour de la technologie et tout. Mais en lisant, je pouvais pas m'empêcher de me dire est-ce que c'est vraiment une histoire que j'ai envie de voir pour Nightwing? Et pas vraiment. Mais et donc son départ a déjà été inattendu parce que on a su ça comme ça quoi, c'était pas prévu du tout. Et on peut se demander ce qui s'est passé.
Bah, c'est en fait, ouais. Bah vas-y.
Non, bah vas-y.
Ah non, c'est ta news, c'est toi qui parles. Désolé.
Mais non, mais je pense que il y a eu une divergence entre lui et DC. Et je me demande si c'est lié au nouveau statu quo de Nightwing. Mais si c'est le cas, c'est un peu étrange, parce que ça veut dire qu'ils ont fait ça, qu'ils ont eu cette idée au dernier moment, quoi. Que c'est tout récent. Parce qu'autrement, ils ne seraient pas engagés sur le titre en sachant qu'il allait devoir faire ça. Ou alors c'est d'ici qu'il a viré, mais ça me paraît, je sais pas, c'est étrange.
Non, je pense que c'est un départ commun, mais qu'en fait, l'idée du concept Nightwing, parce qu'en fait, cette semaine, avec Batman 55, on a perçu la nouvelle situation qui va s'imposer au titre Nightwing, et justement c'est ce que je pense, c'est que Tom King avait cette idée là pour lui, mais que DC s'est dit on va exploiter le filon et en faire une conséquence pour le titre Nightwing lui-même, faire une connexion. Après peut-être que c'est pas forcément ça, que Ben Percy de toute façon voulait se consacrer à ses romans au bout d'un moment, qu'il a trouvé l'occasion, N'empêche que DC a annoncé que Scott Lobdell viendra remplacer Ben Percy à partir de Nightwing numéro 51. Et là aussi, tu voulais réagir. Ouais.
Et oui, là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Que... Mais déjà, ce qui me fait vraiment peur avec ce nouveau statu quo aussi, c'est que DC retombe dans ses vieux travers. C'est d'avoir vraiment plein de titres en mode dark, grim, gritty. Parce que bah, y aura Nightwing maintenant. Avec tout ce qui va arriver là, t'as Teen Titans qui est un peu en mode dark débile, t'as Titans où ils sont tous dépressifs maintenant, quand t'as Batman, mais Tom King le fait bien, donc ça va. Mais ouais, j'ai vraiment peur qu'il recommence à nous faire plein de d'intrigues pas intéressantes à base de trucs dark ou pseudo-dark. Même Redwood, j'ai pas lu, mais j'ai vu ta review au tool. J'avais l'air de dire que c'est vraiment plus de la violence pour la violence. Et donc, si c'est nouveau, si c'est ce qu'ils veulent faire maintenant chez DC, ça fait un peu peur.
En fait, tu vires le premier mot violence, mais ça reste pour la violence, mais il n'y a pas de violence. Et c'est ça le problème. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, Scott Lobdell, ça fait vraiment flipper. Parce que le mec peut autant gérer un titre feel good. Donc, Nightwing, je vois ça un peu comme un titre feel good et ça peut donner quelque chose de vraiment cool. Comme le run de Lobdell sur Red Hood. Jusqu'à maintenant. Enfin, après, je sais pas, ça peut changer du tout au tout avec les numéros suivants. Mais on.
Lobdell, je ne fais plus confiance depuis 95, tu vois. Donc...
Et voilà, Zepli, t'as aussi raison là-dessus, en fait, c'est qu'il est capable du pas mal comme du pire.
Bah, il était bon, en fait, il était bon dans les années 90. Et puis, en fait, quand il est revenu à l'époque, il nous fit tout ça, en fait, il a géré un début de Red Hood un peu moyen et il avait fait de la grosse daube sur Superman. Mais lamentable.
Alors que c'était un peu le sauveur, et après Dan Didio avait repris le truc, je crois, si je dis pas de conneries.
Est-ce que c'est Dan Didio qui avait repris le... Non, c'est vrai.
Ouais, c'était Andy Deagle. Harley, t'as envie de revenir sur Nightwing Est-ce que ça te donnera envie de recommencer Nightwing à la Scott Lobdell? Je suis pas sûr, mais je tente quand même.
Non, en fait, c'est pas son nom qui me donne pas envie de lire. C'est tout simplement le pitch qu'on nous en a vendu. Le type, il va se retrouver, bon, on va le dire clairement, blessé. C'est le même endroit que Batwoman. En fait, la direction que ça prend, j'ai l'impression qu'on va relire ce qui s'est déjà passé là dans Batwoman à une moindre échelle. Je sais pas, mais je trouve que cette histoire d'amnésie, de blessure, c'est du réchauffé. On n'a plus d'histoire pour lui, donc bon, bah tiens, allez, on va lui effacer la mémoire, comme ça on peut recommencer. Et ça me plaît pas, c'est lourd, c'est redondant et ça me donne pas du tout envie de lire, quoi. Mais alors, pas du tout.
Après, il y a des excuses. Ça peut paraître une excuse débile, mais il y a des concepts vraiment à la con pour Nightwing qui ont été vraiment pas mal. Enfin, je pense surtout au run Renegade. Kevin Grayson, je crois qu'il s'appelle comme ça, Kevin Grayson. Et c'était vraiment cool, où il était un peu le disciple de Deathstroke. C'était vraiment bien. Alors que l'idée, comme ça, c'était pas terrible. L'idée comme ça, tu la reçois, tu te dis, ça marchera pas. Mais en fait, si. Bon, après, sous Scott Lobdell, je suis pas sûr que ça puisse être aussi... bien mené, mais on verra.
On dirait qu'ils n'arrivent pas en fait à écrire un Nightwing normal comme tu avais juste avant les New 52 en fait. Ça c'est fini. À chaque fois il faut qu'ils fassent un truc un peu spécial, du genre on va revenir sur son passé un peu dark comme ils ont fait au début des...
On va en faire un agent spécial.
Ouais, on va en faire un agent spécial. À chaque fois, un Nightwing ça va pas. On dirait qu'ils ont un problème avec ça. Il faut toujours qu'ils reviennent dessus.
Pourquoi au début, il était
au départ, après, il est parti dans une sorte de relation amoureuse tordue, et puis il a enchaîné. On va terminer avec la VO, avec les infos pour le Green Lantern de Grant Morrison. Et j'ai perdu son nom, alors que je l'adore, cet artiste.
Liam Sharp.
Liam Sharp, merci. Et en plus, justement, on a eu quelques planches qui sont absolument magnifiques. Et ce sont des informations qui annoncent un Green Lantern, donc le Green Lantern sera bien Hal Jordan, et qui Grant Morrison va l'amener comme dans une sorte de saison 1, à collaborer avec Green Arrow, quelques team-up comme ça, très classique. Et c'est justement cette notion de classique, ça va faire vraiment du bien Green Lantern, parce qu'il faut vraiment repasser après Venditti, là va falloir poncer à mort, refaire un peu le mythe Green Lantern. Et qui dit saison 1, ça pourrait engager une saison 2, donc Grant Morrison sur Green Lantern, ça peut donner quelque chose de vraiment bon. En plus de ça, il y a eu quelques planches qui ont été révélées. Et autant sur les crayonnés ancrés de Liam Sharp, c'est fabuleux, les niveaux de détails, les décors sont absolument somptueux, autant sur d'autres planches qui sont déjà colorées, ça manque justement de détails, alors que tu en as d'autres qui en sont remplis et ça, j'ai peur que ça dénote. Après, il faut voir après sur le rendu si justement ces espaces-là ne sont pas détaillés pour les phases de dialogue qui sont prévues ou non. Mais en tout cas, c'est un duo qui donne vraiment envie et qui a de grosses promesses à tenir là. Zep, à mon avis, tu veux en parler parce que Morrison, non ?
5 étoiles.
5 étoiles directes avant publication.
Ouais, bon, en fait, c'est ça en fait. Avant publication, j'ai déjà prévu que d'en dire que du bien. Non, franchement, pour ce que j'ai vu pour le moment, je suis en train de me hyper comme malade en fait. Morrison. Je sais pas quoi dire quoi. Il y a ça qui arrive. Il y a en plus bientôt là en octobre Wonder Woman. Ça va vraiment, à mon avis, ouais, on repart en fait sur une collection qui peut être intéressante. Moi, je suis encore partant pour ça. Tous les projets de Morrison chez DC, je les trouve forcément un peu, enfin, ils sont rares, mais en même temps, ils sont bons. Genre, ces dernières années, on a toujours
Green Lantern. On a repris sur Green Lantern. Zep, on va rester avec toi pour la partie écran avec la news, puisqu'on a eu la première image officielle de Joaquin Phoenix pour le film de Joker de Todd Phillips, en plus d'images de photos de tournage. Zappy, tu voulais en parler?
Ouais, je voulais en parler parce que en fait j'étais surpris de voir la tête de Joaquin Phoenix comme ça, en fait, qui a l'air d'être un gars un peu paumé. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu osé parce que on voit qu'ils veulent amener ça dans une nouvelle direction. C'est une photo de tournage qui me surprend en fait quelque part. Je me dis, tu sens que le film ça a pas l'esthétique du tout parce que peut voir habituellement d'un film de super-héros. Alors, peut-être, ça peut rappeler un peu vaguement un Joker Heath Ledger parce qu'il a les cheveux longs. On peut tirer vers ça, mais d'un autre côté, je trouvais que l'esthétique, elle faisait plus film noir, tu sais. Et rien que sur cette photo-là, tu vois à peu près ce que ça peut donner en termes de ton. Et je suis en train de me dire, ouais, ça va être peut-être plus un film de gangster qu'un film de super-héros. Et si c'est vraiment le cas, en fait, ça m'intéresse vraiment. Parce que je me dis...
C'est comme ça qu'il a été vendu, de toute façon.
Ouais, et là, pour le coup, en fait, j'ai l'impression que la promesse va être tenue. En une image, tu te dis, ouais, ça y est. En fait, on n'est pas en train de me prendre pour un connard. Ça m'intrigue beaucoup plus que de voir le Joker de l'autre abruti, là. Jared Leto, qu'on avait vu dans Suicide Squad. Là, franchement, je suis intrigué. Ça faisait longtemps, en fait, que je ne m'étais pas hypé pour un film DC. Et là, pour le coup, ça fonctionne. Alors, peut-être parce que j'aime bien Joaquin Phoenix, je trouve ça un acteur plutôt bon, voire parfois extraordinaire, donc forcément. Mais voilà, toujours est-il que ma réaction, elle est. Déjà, ça fait longtemps que je suis pas en attente d'un film DC, et là, pour le coup.
Harley, tu voulais en parler aussi?
Ouais, et pour une fois où j'aurais pu être hypée, mais je vais contredire Zep, ça m'énerve. Parce que. Ça tombe au mauvais moment, le tournage vient à peine de commencer, c'est comme s'il y avait une obligation de montrer que le tournage avait commencé, de montrer qui est impliqué, de montrer à quoi il va ressembler. Et si c'est vrai que ça nous donne une impression de polar, un truc assez sombre, on voit que c'est un type lambda, donc on sait qu'il va lui arriver un truc où il va être complètement déchu. Je sais pas, c'est beaucoup trop tôt, c'est comme dire non mais les gars, vous inquiétez pas, il y a notre film qui arrive. Notre film va être bien, on tient nos promesses, regardez, Joaquin Phoenix est là, vous inquiétez pas. Et je sais pas, je trouve que c'est trop tôt, peut-être parce qu'en ce moment on est en pleine explosion de tout l'univers cinéma de Warner, et du coup ils essayent de se raccrocher aux petites miettes qui restent pour l'avenir. Mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup trop tôt, il a commencé il y a quelques jours, et je sais pas, franchement c'est... Je sais pas comment le dire. En plus, surtout jouer sur les jeux de mots, comme quoi il s'appelle Arthur Fleck parce que ça fait Affleck. Voilà, autant dire qu'il y a un peu tout qui m'énerve là-dessus en ce moment, alors que j'attends vraiment ce film, tu vois. C'est... Je sais c'est pas.
Peut-être un message pour te dire, en fait, c'est un vrai truc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça,
oui.
Tomber en développement de elle ou quoi.
Mais... Attends, parce que si tu veux vraiment rire là-dessus, sur Instagram, j'avais posté la photo comme quoi c'est celle où il est face au clown, où il a un sourire très machiavélique, et là, on voit qu'il a bien été choisi. Et donc, j'avais dit que je voulais attendre un peu plus pour me faire une idée. Mais du coup, en fait, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui m'a demandé « C'est dans Gotham ?» Voilà, je pense que ça résume assez bien le truc.
Alors, je vois pas tellement Joaquin Phoenix.
Ils ont pété.
Je crois qu'il est un peu trop haut level pour
ça. Par contre, je suis pas vraiment d'accord parce que les photos de début de tournage, ça se fait toujours les films super-héros.
Ouais, mais là, ça vient de commencer il y a genre 3 jours, quoi.
Mais Wonder Woman, ça n'avait même pas commencé quand on a eu les premières
photos.
C'était
des photos officielles. Là, c'est des photos de tournage. Il n'y a qu'un portrait officiel.
Ah, tu parles des oui. photos volées.
Oui, moi, je parle des photos volées. Après, le ça, portrait en lui-même...
Il peut rien y faire.
Ouais, mais justement, enfin, ça fait genre... Ouais, c'est moi qui les ai vus le premier, je vais créer le buzz, machin. Regardez, le film, il est là, on va trop assurer. Parce que les photos volées, elles sont quand même de bonne qualité et elles sont quand même sur le tournage, tu vois. Les photos volées, ce n'est pas des photos volées floues avec un zoom dans la rue.
Ah mais bon, quand tu fais des tournages en extérieur, c'est toujours comme ça. Hein.
Est-ce que c'est pas plutôt les réactions autour qui font que justement t'as pas forcément d'envie ? Est-ce que c'est pas les gens qui te coupent l'envie ?
Non, c'est le fait d'avoir vu les photos trop tôt.
Ok, donc.
Après, non, il y a peut-être une frustration aussi parce que c'est justement ce que j'attendais et qu'il n'y a rien de nouveau de ce que, par rapport à ce que j'attendais. Peut-être que c'est ça aussi. Je voulais un type lambda. Un type un peu voilà, il est banal, il est dans la rue, il va lui arriver une tuile, il va péter les plombs, mais. Je sais pas comment dire, c'est trop tôt. Il sort trop tôt, cet Affleck. C'est... Voilà. Et j'espère juste qu'ils vont lui changer le nom, parce que
c'est un truc, à mon avis, c'est juste un bidule de développement ou quoi. Et de toute façon,
Mais j'espère, parce que Todd Phillips, il a révélé comme ça sur la photo, la légende, c'était Arthur.
Mais oui, mais je suis sûr qu'on te colle plein de fausses pistes.
Je crois que t'as un peu trop d'espoir là, Zep, mais bon, on verra à un moment donné. On a fini avec la partie news, on va entamer la nouvelle partie, qui est donc la partie édito. La semaine dernière avait eu lieu le Batman Day, et j'imagine que vous êtes tous partis chercher en librairie votre exemplaire du Batman Day par Urban Comics, avec votre exemplaire en noir et blanc de à la vie à la mort. Et donc du coup, je me suis intéressé sur l'origine du Batman Day. Qu'est-ce que c'est que le Batman Day et pourquoi est-ce qu'on le célèbre ? Alors je suis allé chercher, je suis remonté en 2013, puisque c'est la date où DC Entertainment décide de marquer les 75 ans de ses personnages avec des albums anthologiques retraçant leurs histoires à travers une sélection de numéros, comme ça se fait ici avec Urban. L'entreprise avait déjà tenté l'opération avec le Superman Day, encore aujourd'hui défini au 12 juin, en rapport avec la sortie du film Man of Steel, qui était sorti 2 jours après. Donc, avec la popularité grandissante de Batman chez DC, l'éditeur lance l'opération Batman Day aux États-Unis avec plus de moyens. Alors, au départ, le Batman Day devait avoir lieu le 1er mai aux États-Unis en rapport avec le mois de publication du célèbre Detective Comics 27 en mai 1939. Et donc, DC est décidé à marquer les mémoires avec ce Batman Day à travers le rapport aux origines du personnage. Mais la date a été décalée jusqu'au 23 juillet, puis l'année suivante au 26 septembre. Et donc, la date qui avait d'abord cette notion de rapport à l'origine du personnage avait perdu toute son importance, mais pas sa thématique. À la manière du Free Comic Book Day, il y a un comics gratuit qui était distribué, encore maintenant. Il s'agit des origines de Batman, donc celles de Bob Kane et Bill Finger, qui étaient réécrites par Brad Meltzer et illustrées par Chip Kidd, un designer américain. Il s'agissait alors d'un produit inédit, de collection, accessible à tous, puisqu'il s'agissait d'une réécriture des origines, qui visait à rappeler d'où vient le personnage et réalisé par des artistes reconnus du milieu et au-delà, puisque Brad Meltzer est un romancier très apprécié du New York Times et donc, on peut dire, des États-Unis. Ça, c'était pour la partie officielle, la partie historique officielle. En réalité, les réactions ont été plutôt divergentes par rapport au Batman Day, puisqu'à l'époque, le Free Comic Book Day était déjà quelque peu décrié, puisque l'origine du Free Comic Book Day était un comics gratuit, qui tendait vers un produit inédit, on va dire. Les éditeurs faisaient, à l'époque, preuve d'un manque d'investissement affolant. Offrir des histoires complètes, inédites, et se rapprochant de la valeur historique du personnage de Batman sans être une énième réédition du dit numéro, par contre, ça a piqué la curiosité de tout le monde. Seulement, ce comics gratuit n'était qu'un produit publicitaire pour le hardcover, qui, lui, célébrait les 75 ans du personnage. Donc, toute la collection, toute la gamme 75 ans pour les personnages comme Green Arrow, Shazam, Wonder Woman. Et donc, ce numéro spécial était en fait une réédition du Detective Comics numéro 27, couplé de 2 histoires originales, mais pas inédites. En fait, il s'agissait d'histoires reprises du Detective Comics 27 des New 52. Donc, une sorte de double anniversaire, avec seulement un extrait de l'histoire inédite de Brad Meltzer et Chip Kidd, qui redirigeait vers le hardcover. Mais ça n'a pas empêché à l'opération d'être un succès, la collaboration avec Chip Kidd a été fluctuante, puisque en plus de signer une histoire redécoupée par ses soins, il a également créé une série de 4 masques Batman pour l'occasion. ce qui a lancé toute une vague de merchandising autour des 75 ans de Batman et qui a fait que le Batman Day s'est inscrit dans les mémoires, en plus d'une collaboration avec des milliers de comic shops aux États-Unis que DC n'a pas manqué de remercier et a pu agrandir son opération et en faisant quelque peu oublier le rapport aux origines de Batman par rapport à la fête. Donc aujourd'hui, Batman, ce n'est plus qu'une célébration pour lire du Batman, pour vendre du Batman surtout, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas de source sûre si le Batman Day devait être le coup d'un soir ou si DC avait déjà prévu de s'engager dans une relation sérieuse et réitérer l'expérience l'année suivante. Mais avec le recul actuel, on remarque que le coup de com' a très bien fonctionné. Le Batman Day s'est imposé et s'est étendu en de nombreux lieux et sous diverses formes. Il s'est à la fois démocratisé et enlisé en suivant la même voie que le Free Comic Book Day, en s'appuyant sur des rééditions gratuites, des aperçus incitants à la vente, plutôt qu'un véritable produit de passion créé pour l'occasion. Elle s'appuie aux États-Unis sur des réductions à durée limitée, un single offert, des sorties d'albums reliés, des produits dérivés lors des semaines de l'événement. Il permet également à la maison d'édition de faire l'affiche de festivals comme la Keystone Comic Con cette année, qui était presque consacrée au Batman Day, puisqu'il y avait la présence de Kevin Conroy, Frank Miller ou encore Paul Dini et Jim Lee. Une fois le principe imposé et accepté par le public, DC Entertainment a tous les droits de faire évoluer les règles de sa célébration de son projet. Mais au fond, le meilleur moyen de célébrer le Batman Day, ce n'est pas de serrer la main de Jim Lee, ça c'est surfait. Ce n'est pas de se trouver une excuse pour acheter l'intégralité de Batman Metal, de Batman Metal, ça c'est à ne pas faire. Et c'est déjà de le faire en mai, c'est surtout l'occasion de retrouver son Batman à soi, se replonger dans la série animée de notre enfance, renouer avec ce qui a forgé notre attachement et notre vision du personnage. Et sur ce, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous aviez pensé de l'initiative d'Urban Comics de proposer un album entre guillemets collector, donc à durée limitée puisqu'il était proposé uniquement le 15 septembre, d'une version noir et blanc d'un album d'une équipe qui est fortement appréciée du public, de collectionneurs, de lecteurs de DC?
En premier lieu, il y a la com, zéro. Parce que nous ici, c'était indisponible partout. Et il y a certains libraires qui n'étaient même pas au courant de l'opération. Donc, et j'ai vu sur net, il y en avait beaucoup qui s'en plaignaient. Donc, l'initiative est sympa, mais en soi, il aurait fallu que ce soit suivi sur tout le territoire.
Ouais. Moi, c'est pareil, mais
non. Bon, bah, Zep non plus.
Non.
Non, mais il est impossible. Moi, pareil, franchement, je suis pas allé jusque Paris ou quoi, et ici, en fait, pourtant, je suis pas très loin, je suis quand même dans le sud de. Je suis en Seine-et-Marne, mais pareil, impossible de mettre la main sur l'album sans me déplacer jusqu'en centre-ville de Paris. J'avais la flemme, donc je suis pas allé. Pareil, dans le Nord, c'était pas facile non plus. Il fallait aller à Lille, donc mes potes de Dunkerque, quoi, il n'y a pas eu moyen qu'ils le chopent. Donc on se retrouve en fait sur un manque de communication assez énorme et en même temps, du coup, un désintérêt par rapport à ça parce que je me suis pas non plus dit ah super, il faut que j'aille chercher l'album, dans la mesure où c'est un truc que tu peux aussi acheter en couleur. Donc honnêtement, je m'en foutais un peu, d'autant que pour le coup, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit une édition avec les véritables ancrages ou quoi. Ça me paraît être du Photoshop en noir et blanc ou j'en sais rien. Enfin, je m'en foutais en fait. Donc c'est un peu con, mais ils auraient pu, à mon avis, trouver un truc plus malin à faire, du style proposer un truc qui n'avait pas été édité depuis longtemps, parce que là, c'est un album qui est sorti littéralement 2 semaines avant. Quoi. Donc c'était un peu nul. Je pense que ça risque même en fait de niquer leur vente en fait sur cet album-là.
Ok, alors j'étais parti d'un aspect plutôt positif sur le Batman Day, et vous avez tout foiré, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que c'est des informations qui sont pas forcément rapportées par l'éditeur, et plutôt par justement les lecteurs, et c'est le genre de choses qu'on finit par perdre avec le temps. Et Clégane, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais juste dire que c'était pareil qu'Harley, donc même si je voulais... Ouais, j'aurais peut-être voulu le prendre, mais j'ai pas pu, donc tant pis. Pour moi, ça aurait été plus malin à la limite, s'ils voulaient vraiment faire une édition limitée, et ils font que, je sais pas, 1000 exemplaires et ils le mettent dans tous les magasins de France. Et voilà, t'en as un par Fnac et c'est fini.
Et faire comme ça. Ouais, bah, chaud quand même pour le choper.
Oui, mais.
Non, ouais, parce que là, t'aurais de la spéculation dégueulasse sur eBay, c'est pas la peine, mec.
Ah bah, c'est sûr. Je pense qu'on peut passer justement au review VF avec justement cet album Batman à la vie et à la mort de Tom King et Lee Weeks qui regroupe le Batman Rebirth Annual numéro 2 et le Batman Hellmoon Fund du crossover DC Looney Tunes. Et si je me souviens bien, c'était Clégane qui voulait en parler.
Elmer.
Non, c'était pas Clégane, c'était Harley.
C'était moi.
C'était Harley, désolé.
Ouais, alors, si le tome est composé que d'une 80aine de pages, ce qui est un petit peu dommage, j'invite les gens à le prendre parce que vraiment, les deux parties contenues à l'intérieur, c'est juste. C'est à lire. Que ce soit le numéro Batman Elmer Fudd 1, ou que ce soit l'annual 2, c'est vraiment des histoires, tout tourne autour de l'amour. Et c'est vu de manière différente. Il y a d'un côté le polar avec les Looney Tunes. On n'a pas du tout l'habitude de voir Porcinet, de voir Bugs Bunny dans ce genre de situation, ou même le Taz, ce qui est plutôt chouette. Et de l'autre côté, on a, et c'est pour moi vraiment la raison de l'achat, l'histoire d'amour que méritent Batman et Catwoman. C'est une vraie histoire. C'est beau. C'est dans l'histoire. C'est beau dans les planches. La création vraiment nous emporte très très loin et c'est pas une histoire où il y a une grande menace comme un chapelier fou ou un Joker. La seule menace en fait c'est la vie et le temps, et c'est une histoire qui est très humaine et ça a été l'une de mes meilleures lectures de ces derniers mois. Donc franchement, mais allez-y, même si c'est un petit peu cher pour 80 pages.
Ouais, mais il faut dire que l'édition, on va dire qu'elle est normale pour Urban Comics, mais elle est plutôt belle quand t'es un public de la VO en fait.
Oui, bon, puisqu'en VO, c'est juste un petit single de 40 pages.
Ouais.
Mais non, c'est vrai que ouais, là, c'est une très belle édition. Et franchement, il faut le lire, quoi. C'est vraiment l'une des plus belles histoires d'amour qu'on ait pu avoir dans les comics, je trouve.
Mais ça fait cher. Il faut reconnaître quand même que ça fait cher pour... Enfin, je l'ai acheté, hein. Mais ça fait cher pour celui qui à mon avis, quant au ratio de pages ou peu importe, il va se dire, oh, je vais acheter un truc plus... que là. Pour le coup, je trouve qu'ils ont peut-être pu proposer en fait ça dans un magazine ou peu importe. Ou alors, parce que finalement, le Batman Elmer Fudd, j'ai beaucoup aimé, hein, mais ça paraît limite pas forcément intéressant en fait de le grouper avec ça. Mis à part le fait qu'il s'agit de la même équipe créative, je trouve que c'est quand même un délire qui est vraiment différent pour le coup.
Elmer Fudd, je l'ai pas lu, mais il n'y a pas un rapport thématique entre les deux.
Vaguement, c'est la même équipe.
Oui, et puis non, mais c'est sur l'amour aussi, puisque lui, il enquête sur sa femme, Elmer Fudd, et il y a Batman qui vient l'aider dans son enquête. Donc voilà, il y a toujours c'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment de quête un peu amoureuse, un peu de couple. Mais par contre, si celui-là, on pouvait le mettre peut-être même en backup ou quoi, l'autre, il fallait le mettre à part. Parce que tu peux pas lire un Batman avec 6 numéros et l'annual après, il perd toute sa valeur. En fait, faut vraiment le lire à part.
Ouais. Après, je trouve qu'il s'inscrit quand même franchement dans le run de King.
Oui, c'est sûr.
Bah, en fait, il l'a dit. Hein. Et ça me faisait super peur quand il disait qu'il voulait retracer l'histoire du premier baiser de Batman et Catwoman jusqu'à leur dernier. Et moi, je me suis dit, ouais, ça va être un truc à l'eau de rose, ça va être nul à chier. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis fait une cèpe. Tu vois. Je me suis dit, ok, ça va être à chier. Et en fait, ça a été une très belle surprise. Et on a droit à la conclusion que Tom King pourrait donner à son histoire. Bon, il y a eu des changements entre-temps, mais on voit que c'est ce qu'il voulait faire et c'est ce qu'il a aimé faire. Donc voilà, on était en pleine thématique du mariage, le truc, c'était hyper téléphoné. Et pourtant, il y avait ça au milieu et c'était vraiment un petit bijou qu'on avait au milieu de toute cette connerie de préparation du mariage à travers tous les titres de la Bat Family, qui était imbuvable, quoi.
Moi, je vais pas trop me répéter parce que j'avais... J'en ai déjà parlé dans le top flop qu'on avait enregistré pour l'année dernière. Mais ce que je trouve le plus beau dans cette histoire, outre l'histoire d'amour entre Batman et Catwoman, c'est le fait qu'il ait fait mourir Bruce, mais d'une mort naturelle. Là, je trouve ça vraiment fort, en fait, parce qu'il meurt en humain. C'est juste Batman qui meurt comme un humain, parce que c'est un humain comme un autre. Et ça, je trouve ça magnifique.
Alors, je suis à la fois soufflé parce que bah, c'est vrai que c'est beau, mais aussi soufflé parce que t'as spoilé l'animal.
Oui, en même temps, enfin, oui, mais c'est l'histoire d'une vie et c'est pour ça que ça s'appelle à la vie, à la mort. Hein.
C'est pas faux.
Oui.
Et puis ça spoil pas grand chose parce que même si tu le sais, la manière dont c'est amené, ça spoil pas vraiment en fait.
On va passer à la suite avec Zeppeli qui voulait nous parler de Super Sons tome 2 par Peter Tomasi et par Jorge Jiménez.
Ouais, alors du coup en fait effectivement c'est le tome 2 de Super Sons qui est sorti récemment. Je reviens vite fait en fait sur les deux premiers tomes du coup.
Ouais, vas-y, fais-toi plaisir.
Que c'est voilà, c'est une série qui est assez intéressante dans la mesure où elle va te parler en fait des deux gamins, donc de celui de Batman et celui de Superman, qui sont ben, diamétralement opposés et qui vont devoir en fait s'accepter et collaborer. Alors le deuxième tome en particulier, lui, a l'avantage en fait de s'intéresser à ces deux personnages-là, alors qu'ils vont interagir avec des personnages qui sont issus des Teen Titans en fait. Donc et c'est un peu cool de t'avoir l'occasion de revoir Beast Boy, Raven, t'as aussi Aqualad dans sa version, tu sais, celui qui était dans le dessin animé Young Justice. Franchement, on se retrouve avec une série un peu feel good et en fait qui apporte un peu de fraîcheur au DC Universe, parce que tout à l'heure Clegane disait par exemple ouais, de plus en plus on a plein de tomes qui sont grim and gritty, on se retrouve avec du DC pas fun, un peu dark. Ben ça te montre en fait que l'univers DC c'est pas que ça en fait. Ça peut aussi être plutôt feel good et pour le coup en fait avoir des messages ultra positifs. Je trouve que le Jonathan Kent de Super Sons, par exemple, c'est un personnage qui est toujours en fait bah, quelque part une espèce de petit rayon de lumière au milieu d'un univers sombre. Et je trouve que c'est cool. Par ailleurs, en fait, tu sens que l'évolution de Damien, elle se fait au contact de John, comme en fait Batman, il peut évoluer positivement quand il est avec Superman, par exemple dans le run de King, tu vois ça aussi. C'est le parallèle entre les fils et les pères, ça peut être aussi intéressant. À côté de ça, tu peux noter, bon, bah, comme tu as dit, c'était scénarisé par Peter Tomasi qui gère complètement le personnage de Damien. Je pense que finalement, je pensais pas à l'époque que quelqu'un d'autre que Grant Morrison pouvait bien écrire le personnage parce que c'est un peu son bébé et tout. Mais je trouve que Tomasi, c'est vachement approprié en fait.
Et c'est tellement approprié que tout le monde assimile Damien à Peter Tomasi et non pas à Grant Morrison.
C'est ça en fait, ouais, c'est assez incroyable. Et donc pour le coup, tu vois en fait qu'il maîtrise totalement le sujet. Bon, c'est une série, bon, qui a connu sa fin en VO, il me semble.
Oui, c'est prévu. Ouais, oui, et là maintenant, on a la maxi série Les Aventures.
C'est trop positif.
Ouais, bon, mais qui mérite en fait du coup d'être consulté. Donc si vous avez l'occasion, chopez-les quoi. Il y a deux tomes, ils valent 15,50 pièces.
Le mec, c'est un télé-shopping.
Ouais, c'est ça. C'est pas très cher, tu vois. C'est pas une ruine. T'es pas en train de dire aux gens, allez choper une série avec des tomes à 35 balles que vous allez pas lire parce qu'ils sont trop lourds et qu'ils font 600 pages. Là, c'est des tomes classiques dans la gamme Rebirth. Franchement, plutôt que d'acheter Harley Quinn ou genre de conneries, achetez Super Sons.
Il fallait bien qu'il y ait une claque quelque part dans la review.
Quelque part.
Clegane, qui va parler de Sheriff of Babylon. Encore du Tom King, mais avec son compagnon Mitch Gerald.
En plus, c'est même pas encore fini de Tom King, là. Mais encore après. Mais
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, donc Sheriff of Babylon, c'était un titre Vertigo qui est sorti quand 2 ans.
Il y a 2 ans.
2016. Et donc.
C'est quoi Vertigo déjà?
Mais c'est un petit truc.
Zaplir. Va te recoucher, s'il te plaît.
Mais donc ça. Parle de la guerre d'Irak, sujet que Tom King connaît très bien parce que bah, il était soldat à ce moment-là. Et donc c'est un espèce de polar, on peut le dire, où le sujet traite de la mort d'un soldat. On cherche et les protagonistes cherchent un assassin. Et en soi, c'est pas tant l'enquête qui est intéressante, l'histoire, c'est tout le développement des personnages. Par exemple, on a trois personnages principales. On a le soldat, qui est un peu l'image cliché de tous les films de soldats américains. Il est blond, il est baraqué. Mais la différence, c'est que là, c'est quelqu'un de profondément pacifique, en fait. Je crois qu'on ne voit pas une seule fois tirer dans toute l'histoire. Et donc, déjà, on peut voir que c'est un espèce de retournement du je sais pas le mot.
Du caractère du
ouais,
soldat.
Mais du cliché, surtout, du soldat américain qui désingue tout un village et qui après part en disant oh, « c'est bon, j'ai fait mon job ». Par contre, j'ai plus les noms des personnages. Ça, c'est un scandale.
Non, mais ça, c'est normal, c'est les titres Vertigo. En général, quand c'est pas une grosse ongoing, tu finis par les oublier assez rapidement et c'est dommage.
Ouais, c'est ça. On a l'autre personnage donc, qui est une ben, c'est une Irakienne, si je ne dis pas de bêtises, et donc, oui, oui. Qui a vécu quelques années ou quasiment toute sa vie aux États-Unis, qui revient dans le pays où elle est, c'est quoi, ambassadrice en moitié. Et ouais. Donc, bah, y a une relation entre elle et le soldat. Et le troisième personnage est un ancien flic irakien. Et donc, bah, toute l'histoire tourne autour de ces trois, de ce trio. Et bah, c'est super touchant. Et par-dessus tout, c'est que le titre, il sonne vrai. Quand tu le lis, tu te rends compte que Tom King, il parle de quelque chose qu'il connaît. Et c'est un titre très gris, en fait. Il n'y a pas vraiment de bon, de mauvais. Ils ne disent pas les Américains, ils avaient raison. Sûrement pas. Mais c'est vraiment... Ça s'est passé comme ça, quoi. C'était horrible. Mais il n'y a pas eu de bien ou de mal. Il y a eu tout. Et c'est... On peut quand même dire que c'est un tour de force de Tom King. On comprend que... qu'après ça, DC ait voulu et accepté de le mettre sur leur titre principal.
Enfin, je voulais revenir un peu sur la mise en page de Gérard, qui est terrible.
Vas-y. Ben, donc, on a son... C'était leur premier boulot ensemble, en fait. C'est la première fois qu'ils sont rencontrés, qu'ils ont travaillé ensemble. Ouais, il me semble. Il me semble parce que je crois que c'est écrit dans la préface de la édition VO. Mais oui, donc il a un style complètement numérique, Mitchell Herald, mais ça rend super bien en fait, et c'est composé quasiment que de pages en 9 cases, et tout ce qui ça rend super bien, quoi, je pense qu'on peut dire que ça. Et donc en fait, bah, on a quasiment que des 9 cases, mais quand on s'appelle en français les pages, pleine page. Et ça rend super bien parce que ça casse complètement le rythme d'avant, et ça nous donne une nouvelle vision, quoi. Et c'est assez impressionnant qu'il arrive aussi bien à enchaîner des toutes petites cases, des grandes pages comme ça. Vraiment, c'est un artiste qui est génial, faut le dire.
On termine la VF avec un album dont j'ai fait la review et je tenais vraiment à en reparler parce que justement, bah, ça c'est un peu comme l'événement Batman Day, il n'y a pas eu énormément de communication alors que cet album le mérite amplement. C'est Joe Chester, Un rêve américain, scénarisé par Julian Volor et dessiné par Thomas Campi. Et c'est absolument magistral tant au niveau de la narration, de la mise en page, du style graphique, du style narratif. C'est assez découpé en chapitres avec le... avant la création de Superman, après la création de Superman, où ça a été vraiment deux luttes, la lutte pour faire reconnaître son personnage, et après la lutte pour récupérer le personnage qui a été perdu. Mais pas comme vous le pensez, en fait, c'est plutôt une question de droit. Alan Moore s'est encore fait avoir après. Et c'est en fait une mine d'informations de cité européenne, autant que pour les comics. C'est un amour pour la BD en général, et ça unifie tout ce conflit bande dessinée américaine, et bande dessinée à la française, et ça fait vraiment plaisir de trouver cette union et cette passion chez des artistes. Et c'est vraiment à lire pour tous les fans de Superman, les fans de comics, même les fans de bande dessinée et même de peinture, puisque tout ce style graphique, c'est purement américain des années 30, c'est une grosse référence à Edward Hopper, et c'est vraiment magnifique. Il y a un traitement de la lumière dedans qui est superbe, c'est vraiment un chef-d'œuvre total. Et c'était juste à signaler. On enchaîne avec la VO et on revient avec Clegan, encore pour du Tom King, c'est comme quoi ça le suit, avec le Batman 54, scénarisé par Tom King et dessiné par Matt Putain de Wagner. Et c'est vraiment trop bien.
Ok. Clegan, à toi. Je pense qu'on va m'appeler Monsieur Tom King après, hein. C'est incroyable. Donc dans ce numéro, on a toujours les retombées du mariage raté entre Bruce et Selina. Parce que Batman est encore plus déprimé qu'avant. Ça, c'est beau. Et donc, on a Dick qui vient lui rendre visite, on va dire. Et on a le duo Batman et Robin, ou maintenant Nightwing, qui agissent ensemble. Et c'est vraiment super bien écrit, quoi. On a d'un côté Dick qui essaye de faire de son mieux pour que Batman aille mieux. Et d'un autre côté, on a une narration sur le passé où là, c'était Bruce qui essayait de réconforter Dick quelques jours après la mort de ses parents. Et donc, bah, ça marche que sur des allers-retours entre le passé et le futur. Et, Et bah, ça rend super bien. Le duo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le duo Batman et Lex Robin aussi bien écrit. Et surtout, on se rend compte avec ce numéro que s'il y a bien eu une réussite dans la vie de Bruce, c'est Dick. C'était sa plus grande réussite en tant que Batman et en tant qu'humain en général, quoi.
C'est gentil pour Damien.
Bah, c'est pas une réussite, t'as vu Teen Titans? Le mec, il enferme des gens dans des prisons, dans une prison qui lui appartient à lui.
Ouais, enfin, quand on parle de progéniture, il y a pire hein, dans les Titans. Donc.
Est-ce qu'on peut ne pas en parler?
Il y a une même pour une certaine crush, là.
Ouais. Ouais, surtout quand on voit que le futur va être développé juste sur elle.
Ça va être bien.
Ravi.
Mais oui, donc, excellent numéro. Et pour tous ceux qui n'ont pas été contents du numéro 50, même si je trouvais les réactions complètement abusées, bah, lisez ça et vous verrez que Tom King, il n'a pas volé sa place, clairement pas.
Déjà, Cold Days, c'était une sacrée claque, et le 54, oui, il a bien suivi. Harley, toujours du Batman, tu voulais nous parler de Batman Dame numéro 1 par Ben Azzarello et Liber Mero. Quelle surprise!
Je vois pas pourquoi tu dis ça.
Parce que pour chaque podcast où on parle de Batman Damned, de l'annonce de Batman Damned, à chaque fois t'es en mode groupie, faut que j'en parle.
Ouais, mais là j'ai plus envie d'en parler en fait.
Non, mais là faut que t'en parles par contre.
Ouais, non, c'est un numéro que j'attendais. Et sans dire que j'étais déçue, parce que c'est pas le cas, je l'ai trouvé très bien. Mais il y a des trucs que j'ai pas. Qui m'ont dérangé en fait. C'est un peu comme si ce premier numéro était une introduction au niveau du duo Constantine-Batman, et là ça fonctionne bien, il y a la psyché et tout ça. Mais de l'autre côté, en fait, t'as une sorte de cascade de personnages, comme s'ils voulaient tout mettre d'un coup, histoire de dire non, mais il y a plein de personnages connus, restez avec nous, vous verrez dans la suite, puisqu'on sait qu'il y a d'autres personnages qui arrivent ensuite. Et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop. Voilà, il y a Deadman qui arrive comme ça en mode « Allez, salut, ouais, je te donne un coup de main, je me barre. » Il y a Zatanna qui fait un tour de magie dans la rue. Je sais pas, je trouve que ça fait trop. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu moins de têtes connues et qu'on se concentre vraiment sur le versant Constantine-Batman. Parce qu'en plus, ça s'appelle Batman Damned. Et si on a l'impression que c'est Batman qui va raconter son histoire comme à chaque fois, en fait, la narration, c'est John Constantine qui l'a fait. Donc je trouve ça sympathique aussi. Et puis les planches, honnêtement, je crois que c'est l'un des plus beaux comics. Je crois que c'est l'un des meilleurs. C'est le meilleur Liber Mero qu'il ait pu nous livrer à l'heure actuelle. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, pour moi c'était une réussite. Et maintenant, quand je vois qu'il y a cette espèce de polémique pour un pénis, j'ai juste envie de tout arrêter. Enfin, il y a un moment... Les gens, juste parce qu'ils ont vu que Batman, c'est un homme, il a un pénis, le numéro n'est pas bien, parce que c'est un dieu qui est déchu, tu vois, il a une bite, voilà, c'est pas un dieu, ouais. Voilà, il a une bite, il a une vie sexuelle, voilà, faut le dire. Mais non, et du coup, voilà, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi, il fait tout et n'importe quoi. Là, ce soir, on a appris que DC, du coup, elle est carrément, pour les prochaines éditions papier, censurer le truc. Il y a ça, il y a le fait que la dernière page, la communauté chrétienne s'est insurgée, créée en blasphème. Alors oui, effectivement, c'est un récit qui est assez couillu, hein. Pardon pour le jeu de mots.
Trop bien.
Mais il y a un moment, il faut l'assumer. Ils l'ont lancé dans le Black Label parce que, justement, c'est plus mature, entre guillemets. Donc on voit un pénis, on voit un blasphème dans une scène d'église. Mais il y a un moment, t'assumes, si tu lances ton Black Label, t'assumes, quoi. Tu t'écrases pas comme une sous-merde parce qu'il y a trois péloïs qui vont pleurer derrière.
Il y a toujours des cons, hein. Rappelle-toi, quand ils ont lancé les New 52 et qu'il y a des gens qui ont acheté, c'était quoi, Renew and the Outlaws pour leur gamine parce qu'il y avait Starfire dedans et qu'après les gens, ils envoient des courriers à DC en disant « Ah, Starfire, elle a moitié à poil, elle parle de sa vie sexuelle, ma gamine, elle est choquée.
Ouais, »
Tu vois, il y a toujours des débiles.
C'est les Américains.
Qui font pas gaffe au fait que c'est écrit directement sur le bouquin pour public machin. Il y a un rating.
Ouais, non, mais voilà. Mais du coup, c'est
déjà des clips de Nicki Minaj avant. Laisse tomber.
Ouais, mais du coup, voilà, c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le traitement, enfin, toute cette image de la chute qu'il y a autour de de Batman, et comme quoi il plonge un peu dans l'univers de Constantine. Voilà, c'est on a le festival des dépressifs pour le coup. Mais là, du coup, je me dis qu'en fait, ça m'a gâché mon plaisir, tu vois. J'ai adoré le numéro, et là, quand je dis tout ça, ça gâche le truc, quoi. Parce que c'est un numéro qui est fort, et puis du coup, ben, en fait, on se rend compte qu'on est allé trop loin, donc on va tout censurer. Et c'est pas normal. Je trouve ça pas normal de la part des gens de s'insurger pour si peu. C'est bon, c'est fictif, il y a un moment, il faut arrêter. Et de la part de DC, de repartir la queue entre les jambes, et enfin, la queue censurée entre les jambes. Et... je sais pas. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce numéro, je l'attendais, et voilà, j'ai fait une review où j'étais très enjouée, et maintenant, je suis beaucoup moins enjouée, parce que ça m'a tout cassé,
C'est pas ça le problème, le problème, c'est qu'ils ont pas compris que Deadman, il doit pas ressembler à ça, et que, en fait, il a une tenue d'acrobate, et que c'est son col, et que ça peut pas être des muscles. Je sais pas si vous avez...
Mais, ça m'a choqué à mort, non, ça. Mais même quand tu vois Batman, il est un peu disproportionné par case, quoi. Ouais.
Non, il y a un problème, c'est-à-dire que Deadman, tu vois, il a un col.
Mais après, c'est aussi une revisite, parce que quand tu vois le look de tous les personnages, ils ont tous changé.
Ouais, mais bon, là, c'est un problème. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un costume. Là, c'est bizarre, c'est quoi son corps, mec?
Ouais, ça m'a pas choqué, ça. Donc,
J'étais un peu. Je me dis, oh putain, pourquoi c'est un accessoire, ce truc, ça fait partie de son corps, quoi. Voilà, ça m'a bugué.
Moi, ce qui me fait
le... Mais après, au niveau de la construction, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve des cases qui rapportent à d'autres récits qui sont très connus. J'aime beaucoup le fait que la narration soit pas forcément à travers des cases particulières. Des fois, c'est juste du texte qui est par-ci, par-là, qui se mélange au fond. Et ça apporte c'est pas une mélancolie, mais un truc, tu vois, comme si ça apportait du mouvement en plus au scénario. À l'écriture, et je trouvais ça bien, mais je suis toujours aussi énervée.
Ça devrait prendre son temps, parce que les personnages, ils rentrent un peu à coups de chausse-pied dans le récit, et c'est un peu...
Mais c'est ça, ils ont tout voulu mettre d'un coup, sauf Harley Quinn, puisqu'on sait qu'elle arrive au numéro 2, mais du coup, les autres, on s'est dit, bon, on va tous les mettre là, même l'espèce de petite sorcière, machin, bon, à son look, tu te doutes assez facilement de qui c'est, mais... Il y en a trop. J'aurais voulu, limite, juste voir Batman et Constantine. Alors, peut-être une petite apparition de Deadman pour le rôle qu'il joue, mais mieux la développer, mais pas nous livrer tout d'un coup, quoi. C'est un peu trop.
Du coup, tu te dis, en fait, hein, j'ai l'impression que ça repousse un peu le truc. Tu te dis, ah, c'est bon, je l'ai vu, mais comme si t'avais vu une preview. D'autant qu'en plus, en fait, la sollicitation, elle t'avait balancé la fin du numéro, donc je pensais que ça allait arriver plus tôt. Voilà. Je me dis, bon, on verra ça... plus tard. Ça, c'est l'intro.
Waouh. Moi, je me dis surtout que Harley, t'as du bol avec les réactions des gens pour tout ce que t'aimes, quoi. Entre les photos du Joker et ça, c'est vraiment pas génial.
Non, mais les gens sont cons aussi. Ouais. Au bout d'un moment...
Non, mais voilà, enfin... Là, honnêtement, aujourd'hui, je te jure que sur mon feed, j'ai cru voir que ça, cette histoire de pénis.
Ouais, moi aussi, j'ai vu ça partout.
J'ai vu que ça. Sur mon feed, il y avait, sur tout ce qui est comics... Il n'y avait que de ça. Et je me suis dit, bon, de toute façon, bon, allez, c'est les sites américains, ils aiment bien faire on va appeler ça du bitaclic, ils aiment bien faire ça, voilà, ils jouent un petit peu avec le zizi. Et quand j'ai vu que les sites français s'y mettaient aussi, dont le Huffington Post, je me suis dit, mais attends, mais on est où là? C'est bon, enfin, les gosses, ils ont 14 ans, ils regardent Game of Thrones où t'as de la bite, t'as des chats, t'as des seins, n'importe quand. Je crois que c'est Pornhub et qu'il y a un accès libre. Et à côté de ça, dans un comic sur deux cases, ils vont te censurer. Enfin, il y a un moment, ah, bon, stop.
Là, tu vas lui mettre la radio sur France Inter de Morant et mettre là. Et là. Mais qu'est-ce que vous pensez alors de la bite de Batman à son invité, tu vois? Je vais dire, merde, putain, qu'est-ce qui se passe?
Non, ouais, mais c'est ça, enfin, je comprends pas. C'est comme si pour les gens, en fait, Batman, c'était une c'était Ken, tu vois, ou Barbie. En fait, il n'y a rien dans le pantalon, quoi.
Ouais, non, d'autant qu'en plus, tu sais, l'image, elle est même pas choquante en tant que telle, en plus. Enfin, tu vois,
il y a quand même de l'ombre, c'est juste à contre-jour. C'est pas. Salut, je te montre mon petit bâton, là, comme ça.
Je veux dire, en plus, c'est pas la première fois. Je veux dire, putain, le nombre de fois où tu vois, par exemple, Batman à poil qui est en train de prendre une douche dans des comics. Ça arrivait plein de fois et il n'y a personne qui a hurlé au scandale avant.
Mais oui, mais on ne voyait pas son zizi.
Oh là là.
Et maintenant, on le voit.
Le All-Star Batman de Frank Miller, c'est soft, justement parce qu'il ne monte pas sa bite. Il ferait l'hélicoptère devant, justement.
Voilà, c'est physique, ça. Il tape un gosse, il lui fait manger des oiseaux, il saute Black Canary dans un quai, mais
Des rats. On va continuer avec Zep pour Plastic Man numéro 4 de Gail Simone et dessiné par Adriana Mello. Justement, bah, tu vas me dire ce que ça te donne la suite parce que j'ai pas continué.
Bah, alors en fait, donc, bah, on continue en fait dans cette série assez particulière dans la mesure où tu as Plastic Man qui est une espèce de détective dans des comics qui font parfois penser à un récit un peu hard-boiled, mais en même temps avec l'humour détaché qu'on lui connaît. Ce numéro-là, je voulais revenir dessus parce qu'en fait, Gail Simone, elle a fait un truc assez intéressant, c'est que il croise la route en fait des Secret Six. Tu vois ?
Ok, je vois.
Donc elle se fait de l'auto-promo, elle ramène les persos de Secret Six, moi je les aime bien. J'en profite pour dire que Urban, ils ont enfin fini le Secret Six en VF, le premier run qu'elle avait écrit. Ils l'ont enfin fini au bout on a attendu 2 ans pour qu'ils sortent le dernier tome, mais voilà. Et donc c'est toujours cool en fait de les revoir. D'autant que du coup les interactions que t'as entre Plastic Man et puis bon, je sais pas, Catman et tout, enfin, c'est un peu fun. Je trouve que c'est bien en fait de remettre ce personnage-là en fait aussi en lumière parce que encore une fois c'est un personnage un peu plus soft en fait, Plastic Man un peu plus fun que ce que t'as l'habitude de voir chez DC actuellement. Et on le confronte par contre justement à un univers qui lui il peut être vraiment grim and gritty. Et t'as une espèce de décalage entre ce qui se passe et la manière dont lui il va aborder les choses, tu vois, qui est assez sympa parce que il se passe des sales trucs dans une ville où t'as des flics corrompus, des machins et tout. Puis lui, c'est un personnage cartoony, il est là, il mène son enquête, il fait son truc. Et puis il est, en plus, tu sais, il est. Lui-même, c'est un personnage qui finalement n'est pas vraiment un bon, n'est pas vraiment un méchant non plus, parce que tu sais, un gentil non plus, parce que c'est un personnage qui est en fait un ancien criminel, quoi, tu vois. Donc il a un côté un peu gris quelque part, mais toujours pris avec un second degré. Donc, je sais pas, je trouve que ça. Il apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que t'es pas sur du super-héros straightforward et t'es pas non plus dans un truc que tu peux classer dans le super fun d'un côté ou le grim and gritty. Il est entre les deux. Il y a une assez grande modernité tout en fait rappelant ce que c'est que des vieux comics parce que t'as l'impression limite que c'est un personnage humoristique un peu de façon comics des années 50 qui évolue dans un univers grim and gritty façon années 80, mais le tout écrit comme un truc super moderne. Je trouve que Gail Simone, en fait, elle fait partie des auteurs qu'on devrait voir plus souvent chez DC parce que je crois qu'elle a pas vraiment signé de merde ces derniers temps, si ce n'est si on oublie son run sur Batgirl. Voilà, c'est-à-dire si on oublie son run sur Batgirl, elle faisait des trucs plutôt bien. Dès que tu lui confies un personnage un peu secondaire, ou Wonder Woman aussi, c'était bien. Mais voilà, Secret Six, là, Plastic Man, c'est dans la même veine. Je trouve qu'elle est bien pour écrire le second couteau, en fait. Et DC, en fait, pendant longtemps, c'était la boîte qu'on retenait pour ses bons titres sur les personnages secondaires. Et là, bon, c'est qu'une mini-série, mais je lis ça, je me dis, il reste plus que 2 numéros. Je me dis, franchement, faites qu'ils continuent dans cette veine, qu'on continue à reprendre des auteurs qui avaient fait des bonnes choses dans le passé et qu'on leur colle dans les pattes, en fait, des personnages secondaires intéressants.
Mais après, c'est ce qui était prévu avec le nouvel imprint qui arrive où ils font revenir des personnages oubliés et justement par des auteurs et des gens qui ont marqué le public. Donc, t'as une chance de la retrouver encore, hein.
C'est possible, d'autant que là, en fait, franchement, la fin, je balance pas, mais elle ramène des méchants, en fait, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et qui sont des méchants d'ici que t'avais envie de voir, en fait, que t'as vu dans ses runs, surtout, d'ailleurs, elle recycle un peu, elle se fait des shootouts à ses propres trucs, qui étaient bien. Par contre, sur Macra, on reprend pas ses méchants de Batgirl. C'est bizarre.
C'est un signe. Bon. Ouais, ils avaient un peu l'air con, ces méchants de Batgirl, quand même. Mais...
Un peu.
Mais elle fait pas plein de trucs à côté, c'est pas pour ça qu'elle est pas beaucoup chez DC.
Bah, j'ai le souvenir qu'elle était surtout un peu dans la merde niveau job.
Ah ouais, il me semblait qu'elle avait
l'écriture. Justement, elle se plaignait des maisons qui la refusaient parce que elle était un peu trop. J'avais pas engagée, mais un peu trop dissidente en fait.
Ouais, non, je sais. Bon, elle aime bien se plaindre beaucoup sur Twitter aussi, hein, c'est le problème. Moi je l'aime bien, mais c'est un peu. Tu vois. Un côté SJW des fois aussi.
Bon, on va pas rentrer dans le débat, on va terminer les reviews avec Supergirl 26 de Marc Andreyko et Kevin Maguire. Je voulais en parler parce que c'est une surprise de malade. Je pensais pas aimer Supergirl, enfin je pensais pas aimer le comics actuel Supergirl. Je ne pensais pas aimer les conséquences de la mini-série Man of Steel de Bendis que j'avais pas trouvé vraiment bien non plus, pour dire pas du tout. et surtout pas un comics de Marc Andreyko à qui on devait la fin de Batwoman des New 52, qui était, d'après mes souvenirs, clairement pas terrible.
Même on lui a filé la patate chaude à l'époque, rappelle-toi.
Ouais, ouais, c'était pas faux. Et c'est surtout Kevin Maguire qui m'a dit, enfin, qui m'a dit, je me suis dit, Kevin Maguire, faut que je lise ça. Donc déjà, Kevin Maguire, c'est un régal total. Le mec, il te gère le cosmique comme pas possible. T'as des émotions partout. T'as la même réaction que juste au dessin. Au dessin, t'as une réaction déjà. T'as un lien. Mais alors avec le scénario, les dialogues, Marc Andreyko, il gère une Superman Family, il gère le Green Lantern Corps, il y a une très bonne relation de l'univers cosmique d'ici. Tout va... Enfin, il écrit Supergirl comme un personnage féminin, comme aurait voulu le faire Sterling Gates, en fait. Et d'ailleurs, ça m'a donné quelques envies d'articles. Et Sterling Gates, il avait été viré de Supergirl parce qu'il avait fait quelque chose de Supergirl. Il avait écrit Supergirl comme une femme réfléchie. Et en fait, DC voulait que Supergirl reste la gamine de 17 ans complètement paumée qui vient juste d'arriver. Ça va faire 50 ans qu'elle est là, mais elle vient juste d'arriver, c'est tout. Et justement, là, Marc Andreyko, il en fait un personnage qui réfléchit, qui se pose des questions, qui va tenter de s'opposer à une forme d'autorité, mais pas parce qu'elle réagit comme une adolescente, mais parce qu'elle se dit que moralement, elle le doit, elle. Elle a envie de réagir comme ça, elle le doit par rapport à ses relations à son peuple, à ses origines, et elle va devoir s'opposer au Green Lantern, là, par exemple. Et ça crée quelques ruptures, et la suite, elle s'annonce magistrale, il y a Doc Shiner qui va arriver, je crois que Supergirl, ça va être un des meilleurs comics de l'année, vraiment, gros coup de cœur.
Non, mais il a raison, il m'a fait le terme du Supergirl, et j'étais pas déçu à la fin, donc c'est bien. Merci, Watchful.
C'est la première fois que tu lisais du Supergirl.
Non, c'est la première fois, mais c'est la première fois que je prenais vraiment du plaisir depuis un moment.
Ouais, bah, je crois qu'on était un peu dans le même cas.
Mais non, c'était vraiment bien. Et en plus, il y avait un écureuil de l'espace, donc ça, c'est bien.
Oui, c'est Shrip, ça. Ah, Shrip, mon lanterne préféré. Avec Sodamiat. Enfin, bref, voilà, on est parti dans un autre sujet. Donc, c'est tout pour ce podcast. On espère que vous avez passé un aussi beau moment que nous. Et alors, n'hésitez pas à donner vos retours de vos lectures, vos conseils en review. J'allais dire en review, mais plutôt vos conseils, votre sélection. Dans les commentaires, parce que c'est un peu ça le principe d'une communauté, c'est d'échanger. On vous remercie, on vous dit, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un second podcast pour la rentrée.
Salut.
Salut.
Salut.